RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem
et Arthur Ponchelet pour le journal.
Et à la une ce matin, nouvelle libération d'otages israéliens par le Hamas aujourd'hui. Deux d'entre eux ont été pris en charge il y a quelques minutes par le Comité international de la Croix-Rouge. En échange, près de 200 prisonniers palestiniens doivent sortir de prison. On est en ligne avec nos envoyés spéciaux à Tel Aviv dès le début de ce journal. Direction ensuite Mexico. On retrouve notre correspondante, le Mexique, qui retient son souffle avant l'imposition de nouveaux droits de douane par le voisin américain. Donald Trump doit signer un décret aujourd'hui pour taxer les produits mexicains, canadiens et chinois. Au moins 700 morts et plus de 2800 blessés entre dimanche et jeudi. L'ONU dresse le bilan des combats à Goma dans l'est de la RDC. Vous l'entendrez, l'OMS s'inquiète, elle, de la situation sanitaire au Nord Kivu. Au sommaire également, on sera en Belgique où après 7 mois de négociations, les partis politiques se sont mis d'accord pour former un gouvernement. En Serbie, où l'on manifeste 3 mois après l'accident de la gare de Novi. Et puis du sport et le quasi sans faute du 15 de France hier face au Pays de Galles, première journée du tournoi des 6 nations.
Trois otages israéliens contre 183 prisonniers palestiniens. Nouvel échange aujourd'hui entre Israël et le Hamas.
Le quatrième depuis le début de la trêve il y a 2 semaines. Au total, 15 otages et 400 prisonniers palestiniens ont déjà été libérés. On prend tout de suite la direction de Tel Aviv où on vous retrouve, Muriel Paradon. Bonjour.
Bonjour.
Avec Nicolas Benita, vous êtes sur la place des otages. Les libérations ont commencé il y a une vingtaine de minutes.
Oui, Ofer Calderon est sorti le premier il y a moins d'une demi-heure. Le franco-israélien qu'on a vu sur un écran géant ici, place des otages, vêtu d'un uniforme militaire, apparemment en bonne santé, faire un signe de la main sur un podium entouré de combattants du Hamas, selon un rituel bien huilé. Il a été suivi par Yarden Bibas, lui aussi apparemment en bonne santé. Ils ont été conduits aux voitures du CICR qui les a récupérés. La scène était très organisée à Khan Younes, tout s'est passé. C'est dans le calme, pas de foule cette fois, comme jeudi où certains otages étaient sortis dans le chaos, ce qui avait poussé Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, à retarder les libérations de prisonniers palestiniens. On attend maintenant la libération du troisième otage, Kis Sigel. Selon la chaîne Al Jazeera, il devrait être relâché plus tard dans la ville de Gaza. Cet israélo-américain doit rejoindre en Israël sa femme, libérée lors d'une première trêve, tout comme Ofer Calderon, le franco-israélien, qui avait été enlevé avec ses deux enfants, eux aussi libres depuis plus d'un an. Ils vont donc être enfin réunis. Ce ne sera pas le cas de Yarden Bibas, qui est sorti donc aujourd'hui sans sa femme et ses deux enfants en bas âge. Le Hamas avait annoncé leur mort dans un bombardement israélien, même si Israël n'a jamais confirmé.
Muriel Paradou en direct de Tel Aviv avec Nicolas Benita pour les moyens techniques.
Il l'avait promis durant sa campagne. C'était même l'une de ses mesures phares. Donald Trump doit signer aujourd'hui le décret imposant des droits de douane à ses partenaires commerciaux.
Entre 10 et 25% de taxes en plus dès le 18 février pour le Mexique, le Canada et la Chine. L'Union européenne pourrait être la prochaine sur la liste, a dit hier le président américain. Parmi les produits touchés, l'acier, le pétrole et les semi-conducteurs. Pour en parler, on est à Mexico avec notre correspondante Gwendolina Duval. Cette mesure va avoir des conséquences dans le pays. Gwendolina, le voisin américain représente plus des 3/4 du commerce extérieur. Quelles sont les réactions sur place ce matin ?
Le ministre de l'économie parle de ces frais comme d'une erreur stratégique qui aura un impact principalement sur les Américains avec l'augmentation des prix. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, le Mexique veut garder la tête froide. Ce sont les termes de la présidente Claudia Sheinbaum. Hier, alors que la décision était en train de se préciser, la chef d'État s'est montrée rationnelle, affirmant que son gouvernement avait plusieurs plans de prêts et des options pour répondre qui n'ont pas encore été dévoilées. Depuis le début, la stratégie du Mexique est de ne pas réagir trop vite et faire des appels au dialogue avec Donald Trump.
Ce dialogue, justement, Gwendolina, il prend la forme d'une négociation. Le président américain veut stopper la migration et le trafic de drogue.
Oui, ces derniers mois, le Mexique a fait des efforts considérables sur le plan sécuritaire. Même la Maison Blanche l'a reconnu. 10 000 personnes liées au trafic de drogue ont été arrêtées et plus de 90 tonnes de stupéfiants ont été saisies. Ce sont des records. Également sur le plan migratoire, avec la politique menée par ses services de l'immigration, le Mexique est parvenu à diminuer de 70% les flux de personnes qui arrivent à la frontière nord. Mais Donald Trump ne s'intéresse pas à ces chiffres. L'instauration de ces frais montre que les les négociations sont toujours ouvertes entre les deux gouvernements. À propos de la migration, même si le Mexique concède à recevoir ses concitoyens expulsés, la question des personnes des autres nationalités est encore floue.
Gwendolina Duval, correspondante de RFI à Mexico.
7h05 en temps universel. Pas de condamnation explicite du Rwanda hier par la SADC. La communauté d'Afrique australe se réunissait pour évoquer la situation dans l'est de la RDC.
Hier, l'ONU a aussi dressé un premier bilan des combats qui opposent l'armée congolaise et ses alliés au M23 soutenu par Kigali. Au moins 700 morts entre dimanche et jeudi. Tariq Jasarevich de l'Organisation mondiale de la santé est lui revenu sur la situation sanitaire dans la capitale provinciale du Nord Kivu au cours d'une conférence de presse.
Les hôpitaux sont saturés et font face à un afflux de blessés. Entre dimanche 26 et ce jeudi 30 janvier, on a dénombré au moins 2880 blessés, la plupart par des tirs ou par des éclats d'obus. Nos collègues ont vu des corps sans vie dans les rues, dont certains semblent être des civils. Ce bilan va très certainement s'alourdir à mesure que la violence s'estompe. Nous allons pouvoir accéder à plus d'endroits et sans doute avoir un meilleur accès aux communications dans les prochains jours. Les personnels de santé, les infirmiers, les chirurgiens, les anesthésistes travaillent jour et nuit depuis 6 jours maintenant pour tenter de faire face à cette crise. Il manque de matériel de première nécessité et il y a de gros besoins. L'OMS explore toutes les alternatives pour tenter d'acheminer plus de matériel dès que possible. Nous nous préparons aussi à des besoins croissants dans le sud Kivu.
Propos recueillis par Lisa Fabian. L'actualité au Proche-Orient et cette déclaration hier des enquêteurs de l'ONU en Syrie. Ils disent avoir trouvé beaucoup de preuves des crimes commis sous le régime de Bachar al-Assad. La Syrie où depuis la chute de l'ancien régime, le contrôle du nord-est syrien par les forces démocratiques syriennes à majorité kurde est de plus en plus contesté. Les villes à majorité arabe demandent à être administrées par le nouveau gouvernement intérimaire. Une manifestation était même organisée hier à Damas. Reportage de notre envoyé spécial Manon Chaplin.
La place des Omeyyades est inondée du drapeau vert et noir de la Nouvelle-Syrie. Des dizaines de familles, pour la plupart originaires du nord-est syrien, se sont réunies là pour demander le départ des forces démocratiques syriennes, comme Mouata et son frère Ahmed, arrivés de Deir ez-Zor.
Nous sommes ici pour demander la libération de l'est de la Syrie, de Deir ez-Zor, de Raqqa. Nous souhaitons que la Syrie soit unifiée, que tous les habitants, tous les organes soient intégrés à la Nouvelle-Syrie. Nous voulons un seul pays, un pays démocratique.
La plupart des familles présentes sont arabes, s'opposent au contrôle des forces démocratiques syriennes à majorité kurde. Sur les réseaux sociaux, les messages hostiles se multiplient quand dans la région, les tensions entre les deux communautés sont de plus en plus visibles, explique Khaled.
Nous attendons du nouveau gouvernement syrien qu'ils expulsent les mercenaires. Nous soutenons Ahmed el-Shara plus que quiconque, car il vit pour l'État, pour le peuple syrien. Nous organiserons des manifestations quotidiennes pour demander leur départ. Et s'il n'y a pas de solution, nous utiliserons les armes.
Plus qu'aux Kurdes eux-mêmes, c'est aux groupes armés du PKK et du YPG que ces Syriens sunnites s'opposent.
Ils sont originaires des monts Kandil, d'Irak, d'Iran. Leur nation n'est pas syrienne. Ils occupent notre région, nous prennent notre argent, notre pétrole, nos hydrocarbures et nos terres agricoles. La moitié des ressources de la Syrie se trouve dans cette région.
Pour le nouveau gouvernement de Damas, le contrôle des champs gaziers et pétroliers de la région est primordial et sera l'enjeu principal des négociations avec les autorités de l'administration autonome du nord et de l'est syrien dans les prochaines semaines. À Damas, Manon Chaplin, RFI.
En bref, l'Ukraine en état d'alerte aérienne nationale. Les autorités évoquent des frappes russes dans l'est du pays. Des drones survolent la région et ce, 3 jours après une attaque massive lancée par Kiev contre la Russie. Après 7 mois de négociations et des retournements de situation, bientôt un nouveau gouvernement en Belgique. Il aura tout de même fallu 60 heures de négociations ces derniers jours avant de parvenir à un accord. Au bout du suspense, le roi a chargé le nationaliste flamand Bart De Wever de diriger le pays. Elena Loison, il s'apprête donc à prendre la tête d'un pays qu'il a passé pourtant les 25 dernières années à essayer de démanteler.
Hier soir, un grand quotidien belge titrait « Bart De Wever peut-il être le Premier ministre de tous les Belges ?» Dans le pays, la question se pose tant le leader nationaliste, également bourgmestre d'Anvers, a bâti toute sa carrière politique sur le rejet de l'État belge et de la Wallonie. Il y a 25 ans, il fonde la NVA, la Nouvelle Alliance Flamande en français, parti nationaliste qui revendique l'indépendance de la Flandre, parti confidentiel à ses débuts. Il devient dès 2010 le premier parti de Belgique et Bart De Wever, l'une des personnalités universités les plus importantes du pays. Un succès bâti à coups de provocations envers la Belgique, mais surtout envers les Wallons, qu'il traite à l'envi de junkies ou encore d'assistés. En 2005, il se rend en Wallonie accompagné de 12 camions remplis de faux billets pour dénoncer l'envoi de l'argent du contribuable flamand dans le sud du pays. Avec le temps, l'indépendantiste radical est devenu un dirigeant ultra-libéral et conservateur. Aux dernières élections, il a fait campagne non plus pour l'indépendance de la Flandre, mais pour la transformation de la Belgique en confédération.
Hélène Loison, correspondante de RFI à Bruxelles. C'était il y a 3 mois, jour pour jour, en Serbie, le toit de la gare de Novi Sad s'effondrait, faisant 15 victimes. C'était le point de départ d'un vaste mouvement contre la corruption qui a poussé le Premier ministre à la démission il y a quelques jours. Pour rendre hommage aux victimes de l'accident et réclamer des élections libres, cette semaine, des étudiants ont lancé une grande marche, 90 km entre Belgrade, la capitale, et Novi Sad. Laurent Rouy était dans le cortège. Reportage.
Avec 3 heures d'avance, les habitants de Sremski Karlovci, à une quinzaine de kilomètres de Novi Sad, ont formé un comité d'accueil. Ils sont 800, de tout âge. Des tables remplies de nourriture et d'eau attendent la colonne. Une femme passe les bras chargés de boissons.
Je porte de l'amour pour la jeunesse.
Voici enfin la colonne des étudiants contre la corruption. Un cycliste joue les éclaireurs.
Les étudiants qui marchent forment sûrement une colonne d'1 kilomètre de long. Les gens nous accueillent comme des libérateurs qui les libèrent de la tyrannie.
Toute menue, enveloppée dans un drapeau serbe, une étudiante se repose un instant.
Je n'ai jamais autant marché de ma vie. Partout où on passe, les gens nous soutiennent, nous donnent tout, de la nourriture, de l'eau. Sans eux, on n'aurait pas tenu.
Plus loin, une femme âgée s'époumonne.
Bravo à la jeunesse, ils vont enfin nous faire sortir de ce mal. Ce système, c'est le mal, ça a duré bien trop longtemps.
Les étudiants sont restés à peine 30 minutes. À Novi Sad, tard dans la soirée, ils ont été accueillis sur un tapis rouge et ont dormi comme ils ont pu dans les universités occupées. La grande manifestation de 24 heures contre la corruption commence officiellement à 15 heures, mais les rues sont déjà remplies. Novi Sad retient son souffle. Laurent Rouy, Sremski Karlovci, RFI.
Et puis Arthur, du sport, avant de refermer ce journal, en rugby, la France entame le tournoi des Six Nations de la plus belle des manières.
Victoire hier soir contre le Pays de Galles et avec la manière 43-0, 7 essais en tout. Et parmi les bonnes performances au Stade de France, Babacar Diarra, celle de l'ailier Théo Atisogbe.
Le public ne s'y trompe pas. Théo Atisogbe n'a pas manqué sa première au Stade de France. Après un gros quart d'heure, la délivrance et le premier essai sont venus de ses mains, mais aussi d'un coup de patte magique d'Antoine Dupont.
C'est sûr que quand Antoine y joue, on sait qu'à tout moment on peut recevoir un ballon et plus avoir qu'à courir pour marquer. C'est ce qui m'est arrivé, donc je suis très content de pouvoir jouer avec lui, c'est hyper plaisant.
Cadet de la sélection concoctée par Fabien Galthié, le trois-quarts palois de 20 ans démarrait son premier match du tournoi. Un rêve d'enfant pour l'Hollandais.
Un tournoi que je regarde depuis que j'ai 5-6 ans. Je me souviens qu'un ami nous invitait toujours à son anniversaire début février. On était toujours devant les matchs, Pays de Galles, Irlande, tout ça. Donc c'est quelque chose d'assez mythique. Et là, de pouvoir faire son premier match dans ce tournoi à la maison, en ouverture face au Pays de Galles, c'est quelque chose de fort, de beau. Et ce sera un moment qui restera gravé à tout jamais.
Avec 4 essais en 4 sélections, Atisogbe a marqué des points et même fait oublier la blessure au pied de Damien Penaud, le si prolifique titulaire du poste. Une profondeur d'effectif qui peut emmener les Bleus très loin dans ce tournoi.
Et rendez-vous samedi prochain pour la 2e journée. La France se déplacera en Angleterre. 8h14 ici à Paris. La suite d'RFI Matin, c'est avec Julien Coquel-Rouel.
Merci Arthur Ponchelet, à tout à l'heure. RFI Matin, 3e et dernière heure. Dans un quart d'heure, un nouveau point sur l'info africaine et sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet de la SADC avec un soutien affiché à la RDC mais pas de condamnation explicite du Rwanda pour son soutien au M23. On en parle avec Claire Bargelès à 7h30, temps universel. Juste après, ce sera le journal des sports, du foot et un Sénégalais à la rescousse de Rennes. Le club breton 16e de Ligue 1 à la limite du relégable compte beaucoup sur Habib Bey qui fait ses débuts sur le banc aujourd'hui, vous l'entendrez. Au sommaire d'ici là, jusqu'où va la science et quand des chercheurs recréent une créature mythologique, un hydre à deux têtes, un vrai, a vu le jour dans un laboratoire et pas celui de Frankenstein. Vous entendrez ce que ça peut nous apprendre avec Caroline Lachowski. Et tout de suite la revue de presse. Et Catherine Potet, à la une de la presse internationale ce matin, les droits de douane imposés par Trump au Mexique, au Canada et à la Chine.
C'est une véritable guerre commerciale mondiale engagée par Trump, annonce le Washington Post, du jamais vu depuis des décennies. Si elles étaient mises en œuvre de manière permanente, poursuit le quotidien américain, ces mesures entraveraient l'économie mondiale. Donald Trump a reconnu que des tarifs douaniers aussi importants pourraient d'ailleurs causer aux Américains eux-mêmes des perturbations temporaires à court terme, mais il a ajouté les gens comprendront. Plus de 10% de droits de douane pour la Chine, plus 25% pour le Mexique et le Canada, où le journal Le Devoir se demande quelles seront les conséquences pour l'économie canadienne. Le tableau n'est pas rose, la Banque nationale du Canada prévoit un recul de la croissance nationale de 6%. Au Québec, qui compte 9 millions d'habitants, poursuit Le Devoir, 500 000 emplois dépendent des exportations vers les États-Unis et la Fédération des chambres de commerce du Québec estime qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises capables d'encaisser une hausse des tarifs de 25% à l'exportation.
Et Donald Trump pourrait ne pas s'arrêter là, Catherine.
C'est ce que rappelle Le Soir à Bruxelles, qui cite les déclarations du président américain des journalistes qui le questionnaient dans le bureau ovale. Est-ce que je vais imposer des droits de douane à l'Union européenne? Vous voulez la vraie réponse ou la réponse diplomatique? Absolument, je vais le faire. L'Union européenne nous a très mal traités. De son côté, Le Monde rappelle qu'il est toujours difficile avec Donald Trump de savoir ce qui relève de la posture de négociation et de la menace réelle. Le quotidien français prend pour exemple la Colombie dont Donald Trump avait menacé d'augmenter les droits de douane de 25%. Avant de se raviser.
À lire également ce matin dans la presse internationale le retour de nombreux Gazaouis chez eux depuis l'instauration de la trêve.
L'Orient Le Jour publie le carnet de bord d'une traductrice de 25 ans, Nour El Yacoubi, qui, nous dit le quotidien francophone libanais, n'a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre et qui raconte « Gaza semble revivre. Les rues, vides pendant des mois, sont de nouveau remplies de familles qui reviennent, de charrettes pleines d'effets personnels et d'enfants qui courent partout. » Mais la joie des retrouvailles s'accompagne de nouvelles gageures. Nour El Yacoubi explique ainsi que les gens ont du mal à se nourrir. Dans les centres d'aide, de longues files d'attente se forment pour obtenir du pain, de l'eau et des couvertures. Quant au logement, la situation est plus que précaire, comme le décrit la jeune femme. Des tentes ont été érigées sur des terrains vides, tandis que le bruit des marteaux et des scies emplit l'air, les familles réparant leur maison ou ce qu'il en reste. Pour beaucoup, dit-elle, le retour est synonyme de perte, de maison, de souvenirs et d'être cher.
De son côté, Haaretz évoque la libération aujourd'hui de 3 nouveaux otages israéliens.
Il s'agit de Yarden Bibas, Ofer Calderon et Kiss Samuel Siegel. Le quotidien israélien s'attarde sur le parcours de chacun d'entre eux. Quelle était sa vie avant le 7 octobre, où il travaillait, à quelle époque il a rencontré sa femme. C'est le cas notamment pour Ofer Calderon, franco-israélien de 54 ans, qui a été libéré ce matin. Connu, nous dit Haaretz, pour être un charpentier talentueux dans le kibboutz où il vit, les autres habitants lui demandent souvent de l'aide pour réparer des choses à la maison. Il avait été enlevé en même temps que son fils et sa fille qui ont été libérés dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu de libération des otages de novembre 2023. Le cas le plus douloureux est celui de Yarden Bibas, 35 ans. Son épouse et leurs 2 jeunes enfants qui ont été enlevés avec lui aurait été tué dans un bombardement israélien.
Catherine Potet pour la revue de presse. Merci beaucoup. Jusqu'où va la science? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
On connaissait l'hydre, ce monstre à 9 têtes de la mythologie grecque, capable de régénérer sans fin ses têtes coupées. Des chercheurs de l'université de Genève viennent de démontrer que l'hydre, petit animal aquatique bien réel, peut effectivement générer 2 têtes.
Et oui, l'hydre à 2 têtes, Julien, ce n'est plus un mythe, mais une première scientifique. Réalisée par le professeur Aurélien Roux, du département de biochimie de l'université de Genève, fasciné comme bon nombre de chercheurs par ce petit polype aquatique de quelques millimètres, Hydra vulgaris, de son nom scientifique, connu de longue date pour sa capacité à régénérer ses organes, en l'occurrence sa tête ou son pied, quand ils sont sectionnés un peu comme un ver ou un lézard. Aurélien Roux et son équipe cherchaient à comprendre comprendre comment, par quel mécanisme, l'hydre, ce minuscule organisme de structure très simple, des fibres musculaires relient sa tête, équipée de fines tentacules, à son pied, comment l'hydre parvenait à se régénérer dans la forme comme dans la fonction. Ils ont donc tenté une expérience. Comprimé très délicatement avec un hydrogel, l'hydre, à son extrémité, préalablement sectionnée, pour créer une déformation qui désorganise les fibres musculaires, incitant les tissus à se régénérer de manière inhabituelle. Et là, bingo, cette déformation contrôlée a entraîné la formation d'une deuxième tête chez l'hydre. Une tête parfaitement fonctionnelle, avec ses cellules, ses neurones et ses tentacules. Il y a même une vidéo qui montre, en temps réel, l'émergence de la deuxième tête de l'hydre, si le cœur vous en dit, Julien.
Impressionnant, mais qu'est-ce que cette hydre à deux têtes nous permet de comprendre, Caroline?
Le rôle des muscles, et pas seulement des gènes, dans la formation, l'organisation et la régénération des organismes, quels qu'ils soient. Jusqu'ici, la manière dont les cellules et les tissus façonnent les organismes était très mal comprise. En montrant que les facteurs génétiques sont couplés à la mécanique des tissus musculaires et agissent au même niveau pour former une deuxième tête correcte chez l'hydre, cette étude, publiée dans la revue Science Advances, ouvre de nouvelles perspectives de recherche et d'interrogation. Résumée par Aurélien Roux dans Science et Avenir, est-ce que ces structures musculaires influencent aussi le développement embryonnaire chez d'autres organismes? Et est-ce que cela pourrait s'appliquer à des espèces aussi variées que les insectes, les poissons zèbres ou même les humains? Jusqu'où nous entraînera cette hydre à deux têtes?
Jusqu'où va la science? Et Caroline, on vous retrouve la semaine prochaine au programme autour de la question.
Lundi, revue de presse avec plein de magazines scientifiques à gagner. Et mardi, reportage au Cap en Afrique du Sud au colloque Science Ouverte au Sud autour de la question comment rendre visible la recherche africaine.
Merci Caroline Lachowski.
Merci Julien.
Écoutez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.
Bienvenue dans le game, notre plongée dans le monde des jeux vidéo. Bonjour Jennifer Lufot.
Bonjour Julien.
Aujourd'hui, parlons d'un problème que beaucoup de gamers connaissent, mais dont peu osent parler.
Oui, il s'agit du fameux backlog, ou encore cette montagne de jeux que nous achetons, mais auxquels nous ne jouons jamais. Que ce soit à cause des soldes Steam, des abonnements comme le Game Pass, ou simplement de l'envie compulsive de tout découvrir, notre backlog grossit à vue d'œil. Bon alors, pourquoi est-ce qu'on accumule autant de jeux? Eh bien d'abord à cause des offres et des promotions irrésistibles. Ensuite, à cause de la peur de manquer quelque chose, soit le fameux effet FOMO, vous savez, Fear of Missing Out. Vous entendez parler d'un jeu génial? Eh bien vous l'achetez immédiatement de peur de passer à côté et puis il finit par prendre la poussière numérique. Enfin, le rythme effréné des sorties de jeux rend difficile de suivre sans accumuler du retard. Accumuler des jeux peut sembler anodin, mais cela a quelques effets sur notre expérience de joueur. Le stress de voir des jeux à faire, qui cause de la culpabilité, la perte de plaisir à force de courir après le temps pour finir vite un jeu, mais aussi le gaspillage financier.
Et quels sont vos conseils, Jennifer, pour dompter ce fameux backlog?
Alors voici mes 5 conseils avisés. Premier conseil, classez vos jeux par priorité. Faites une liste des jeux qui vous attirent le plus, ne gardez dans cette sélection que ceux qui vous enthousiasment réellement, les autres peuvent attendre. Deuxième conseil, fixez-vous des objectifs réalistes. Plutôt que d'essayer de tout jouer, concentrez-vous sur un ou deux jeux à la fois. Un objectif clair rend le backlog moins intimidant. Troisième conseil, arrêtez d'acheter. Posez-vous cette question avant tout achat. Quand est-ce que je vais jouer à ce jeu? Si la réponse est dans des mois, eh bien repoussez l'achat. Le jeu, il sera toujours là. Quatrième conseil, jouez pour le plaisir, pas pour cocher une case. Ne vous forcez pas à finir un jeu si vous ne l'aimez pas. Abandonner un titre qui ne vous plaît pas est tout à fait légitime. Et enfin, dernier conseil, eh bien profitez des abonnements intelligemment. Les Game Pass et autres abonnements sont une bénédiction pour tester des jeux sans achat, mais attention, ne vous dispersez pas. Choisissez un ou deux titres à explorer chaque mois. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de jouer à absolument tout. Vous êtes là pour vous amuser, vous évader et vivre des expériences mémorables. Le backlog n'est pas une liste d'obligations, mais une bibliothèque pleine de possibilités. Alors mettez votre culpabilité de côté, éteignez les réseaux sociaux qui vous rappellent les nouveautés et plongez dans un jeu qui vous appelle vraiment. Alors bonne exploration et surtout, bon jeu.
Merci Jennifer Lufaux. Et bientôt 7h30, en temps universel avant le journal, notre reportage culture au rendez-vous annuel et mondial de la bande dessinée. Nous sommes à Angoulême, dans le sud-ouest de la France, où le 52e Festival International de la BD continue jusqu'à demain. Les lecteurs peuvent y rencontrer des auteurs, assister à des conférences, mais aussi visiter des expositions montées pour l'occasion, et notamment cette année, l'expo Hyper BD. Les visiteurs en sont les héros et héroïnes en se glissant dans la peau d'un auteur sur le long chemin qui mène à la publication. Sophie Torlotin.
Ça démarre sur une table de dessin et puis il y a plusieurs choix possibles, comme les livres dont vous êtes le héros.
Émilie Plateau, qui a raconté avec humour son expérience d'autrice de bande dessinée dans son livre « L'épopée infernale », récidive à grande échelle en concevant le parcours sinueux et à choix multiples de cette exposition.
Soit on envoie son projet, on est publié, ça c'est Adrienne Tominet, sinon on doute, on hésite, ou alors on fait du fanzine, on tente le concours Jeune Talent, on passe par une école, parce qu'il n'y a pas une seule manière de faire de la bande dessinée. Voilà, je voulais englober tout ça.
Sur votre chemin, attention aux choses trappes. Il pourra vous arriver d'errer dans la forêt du doute ou de vous retrouver au bord de la falaise maléfique. Émilie Plateau met en avant la diversité des parcours et celles et ceux, par exemple, qui se sont fait connaître grâce à des dessins sur les réseaux sociaux.
Instagram, c'est le nouveau blog. Après, je ne sais pas trop ce que ça va donner puisqu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices maintenant qui veulent quitter Instagram. Après tout ce que Mark Zuckerberg a dit d'horrible, je sais pas, ça va peut-être faire un renouveau encore dans la manière de diffuser son travail, on verra bien.
À un autre endroit, des jeunes découvrent un Minitel.
En fait, si, ça marche pas, j'ai l'impression.
Vous savez ce que c'est ?
Non, je sais pas. Non, j'ai jamais vu.
Comme un pied de nez aux nouvelles technologies, un auteur utilise ce terminal français ancêtre d'Internet.
C'est un auteur qui est publié chez Super Loto qui s'appelle Bingo et qui a fait une bande dessinée par l'outil Minitel. C'est un système de taper sur un clavier et le dessin se fait par ligne.
C'est là où t'appuies.
Votre quête s'achève si vous arrivez au numéro 21, la publication.
Le Graal, c'est évidemment de publier une bande dessinée.
Devant un livre géant, le visiteur peut appuyer sur une pédale.
Moi, ma BD. Et quand on appuie dessus, eh ben ça fait waouh.
Ce qui aurait été génial, c'est qu'il y ait une fontaine de champagne et puis des petits confettis qui tombent à chaque fois en or ou des dollars peut-être, je sais pas. En fait, on se met devant la bande dessinée, donc le gros livre, et il y a une pédale sur laquelle on appuie et il y a une lumière qui s'allume et attention, c'est une trappe, donc on peut tomber dans la fosse au dragon et se faire manger, mais faut déjouer les pièges pour cette expo.
Une chose est sûre, il vous faut bien plusieurs tentatives pour passer par toutes les salles et arriver au bout de cette exposition dont vous êtes le héros ou l'héroïne. Sophie Torlotin, Angoulême, RFI.
L'exposition Hyper BD au Festival International de la Bande Dessinée à Angoulême. Et le journal dans moins de 2 minutes.
RFI, la sélection du mois.
Hello, baby.
Olamide et Russ.
Stromae et Pomme.
RFI Musique.
Géopolitique.
Le 19 janvier dernier voyait l'entrée en vigueur de l'accord intervenu entre le gouvernement israélien et le Hamas, une trêve davantage qu'un accord scellant la fin du conflit. Quels compromis palestiniens et israéliens sont-ils prêts à faire ? Le retour de Donald Trump facilitera-t-il un terrain d'entente, lui qui veut conclure un vaste accord de paix régional ?
Géopolitique, Marie-France Latin.
Tout à l'heure, à partir de 18h40 TU.
RFI.
Ce dimanche, sur RFI, Idée, Pierre-Édouard Deldic.
Le printemps des peuples de 1848. Christopher Clark, historien à Cambridge, vient de lui consacrer un livre de référence.
En fait, c'est la seule révolution véritablement européenne qui ait jamais existé. Il n'y a jamais eu une cascade continentale comme ça. C'est la seule fois que ça s'est passé.
Idée proposée par Pierre-Edouard Deldic, tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.